de venir, de faire du témoignage régulièrement le lundi midi à la fac de lettres avec le GBU, le jeudi, non, le vendredi aussi à midi 30 plutôt, à la fac de sciences. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, appelez-moi et on se donne rendez-vous. Vous pouvez venir et regarder, être là. Il y a des bibles, il y a des traités. On pose des questions aux gens. Et c'est toujours intéressant de voir comment les gens répondent à ces questions. C'est comme ça que nous avons rencontré Feriel, d'ailleurs. Elle nous avait remarqué, puis elle est venue nous parler. Mais ce qui frappe, c'est qu'il y a des gens qui sont complètement fermés à l'idée de Dieu. D'autres, par contre, connaissent Dieu. Les jeunes musulmans sont ouverts à la discussion avec Dieu parce qu'ils ont une certaine connaissance de Dieu. Mais quand on y réfléchit bien, c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose de fantastique de se dire que je peux connaître Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, non seulement je peux connaître des choses sur lui, mais je peux le connaître comme je connais un ami, comme je connais une personne que j'aime. Il veut d'ailleurs cette relation intime avec lui. Et il nous explique dans sa parole, encore son message, que nous pouvons être ses amis si nous sommes amis avec Jésus-Christ. Nous pouvons être acceptés par lui si nous croyons, si nous mettons notre foi en ce que Jésus-Christ a fait. Paul nous dit que cette relation intime, elle est basée sur la foi. Et dans le chapitre 4 de Romains, nous allons voir comment Paul prend Abraham comme l'exemple parfait de quelqu'un qui avait une foi qui grandissait avec Dieu. Une relation de foi qui grandissait. Même si cette relation n'était pas parfaite, Abraham est un exemple parfait dans le sens où nous pouvons nous identifier à lui. C'était un homme, c'était pas un dieu. C'était pas quelqu'un qui avait des capacités que nous n'avons pas. C'était un homme comme vous et moi, mais Paul l'appelle le père de tous les croyants. Il est le père de tous ceux qui croient, il nous dit dans le verset 11 que nous avons vu la dernière fois que nous avons étudié Romains ensemble. Et la différence entre ces gens qui sont complètement fermés à l'idée de Dieu et ceux qui le connaissent ou qui ont envie de le connaître, qui sont en relation avec lui, c'est simplement la foi. Alors la foi, c'est souvent quelque chose qu'on trouve un peu mystérieux. T'as dit qu'il faudrait allumer peut-être la lumière, le light, s'il te plaît. La Bible nous dit que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Autrement dit, nous appréhendons Dieu, c'est-à-dire, c'est pas que nous l'arrêtons, mais nous rentrons en relation, nous comprenons qui il est. Non pas par nos sens physiques, par nos cinq sens, mais par la foi. Pourquoi ça? Parce qu'il est dit dans Jean, par exemple, par Jésus, que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Paul, dans Timothée 1, 17, nous dit que Dieu est invisible. Il est immortel, invisible, c'est le seul Dieu, mais on ne peut pas le voir de nos yeux, physiquement. Est-ce que quelqu'un a besoin de traduction?
Je ne peux pas revenir. I'm sorry, I can't back up to the beginning.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de traduction? Est-ce que tout le monde comprend assez le français pour me...
Bon.
Bon. Excuse-moi, Nancy. Je sentais que tout le monde me suivait, c'est pour ça que j'attendais pas la traduction. Oh là là, des moments embarrassants. Souvent, les gens vous disent « Dieu est réel parce que vous croyez en lui. » Et puis, ils aiment bien ajouter en souriant « Qu'est-ce que je suis content pour vous ?» C'est bien parce que ça vous encourage, ça vous aide dans la vie. Sous-entendu, moi, j'ai pas besoin de ces balivernes. Moi, je crois pas en lui, donc Dieu n'est pas réel. Et en fait, il faut réaliser que c'est pas le fait qu'on croit en lui qui le fait réel. Non, Dieu est réel qu'on croit en lui ou non. Il est réel, et c'est la foi qui nous permet de faire l'expérience de cette réalité. Il y a une illustration que vous avez sans doute entendue, l'analogie avec les ondes radio. C'est pas vraiment comparable à Dieu, parce que Dieu est une personne qui veut avoir une relation, mais derrière les ondes radio, on peut dire qu'il y a des personnes aussi qui émettent un message, qui transmettent des idées. Et les ondes radio, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Les gens qui disent « je ne crois que ce que je vois », je leur dis « arrêtez de regarder la télé. » Parce que vous ne voyez pas les ondes. Mais vous y croyez puisque vous mettez devant et vous attendez. Ces ondes radio, bien qu'on ne les voit pas à l'œil nu, elles sont bien réelles et active. En fait, si vous tendez l'oreille, est-ce que vous pouvez entendre toutes ces ondes radio qu'il y a dans cette salle? J'entends des choses en chinois, il y a du pop-rock, il y a de la musique classique en ce moment. Non, je ne l'entends pas, mais si j'avais, je ne l'ai pas amené, j'avais plus de piles, un petit poste de radio, pourrait vous faire écouter ces messages. Sur les ondes courtes, vous entendriez tous ces... Et c'est drôle de tourner le bouton et d'entendre des sons qui viennent du monde entier. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les entendre, mais il suffit qu'on ait le récepteur pour qu'elles deviennent réelles. Elles ont toujours été réelles, ces ondes radio. Et de la même façon, la foi, c'est comme un récepteur qui nous permet de rentrer en contact avec un Dieu qui est réel, aussi réel, plus réel que ce pupitre. Nous avons tous, nous dit la Bible, reçu une mesure de foi. Nous avons tous, on ne peut pas dire que je crois à rien, parce que notre vie d'abord, elle est basée sur la foi. Vous êtes assis sur des chaises, vous n'avez pas fait des études scientifiques ce matin pour voir si la chaise allait supporter votre poids. Il y a quelque temps, en étude biblique, il y a un ami, la chaise n'était pas solide et la chaise s'est effondrée sous lui-même. Mais la foi, c'est quelque chose que nous exerçons sans arrêt dans la journée. J'ai jamais rencontré le président Chirac, mais je crois qu'il existe. Parce que j'ai vu son image, là, et j'ai entendu des voix qui étaient transmises par radio, par télévision. Paul nous dit dans Romains qu'à tous, Dieu nous a donné une mesure de foi. Dieu communique. Dieu aime. Pour aimer, il y a automatiquement communication. Il aimait sa parole, son émetteur, sa tour d'émission, on pourrait dire en quelque sorte, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous ne le voyons plus maintenant, mais il s'est fait homme, il a atterri dans la race humaine pour que nous le voyions de nos cinq sens. Il a parlé. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité et il continue de parler. Il a dit qu'il allait envoyer un autre consolateur de la même espèce, le Saint-Esprit est maintenant ici présent. Et Jésus nous dit qu'il est le seul récepteur, la seule façon de communiquer avec Dieu. Et c'est là que nos amis dans d'autres religions, en fait, ils sont égarés. Parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans notre société du 21e siècle, on aime bien la tolérance. Pourquoi est-ce que les chrétiens seraient aussi exclusifs? Pourquoi est-ce que les musulmans ne pourraient pas connaître Dieu? Est-ce que les bouddhistes, tous les istes que vous pouvez trouver, en fait, ces gens-là, tout ce qu'ils entendent, c'est des parasites, parce qu'ils ne sont pas sur la bonne longueur d'onde. Ils peuvent avoir une certaine connaissance de Dieu, savoir que Dieu est tout-puissant, que nous aurons des comptes à rendre à Dieu, mais la Bible explique, et encore une fois, si vous venez mercredi, vous saurez que nous savons que c'est la vérité, la Bible explique que si nous n'avons pas Jésus-Christ, nous ne pouvons pas rentrer en communication complète avec Dieu. Par la foi, nous pouvons connaître Dieu. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment cultiver, comment entretenir, comment faire grandir, comment nourrir cette foi. Cette foi qui est présente en chacun de nous, c'est la Bible qui l'annonce. Tous nous avons l'idée qu'il doit y avoir quelque chose au-dessus de nous. Nous allons lire ensemble Romains 4, versets 16 à 25. Nous allons prendre des leçons pour voir comment nous pouvons faire grandir notre foi. Page 173 dans la Bible à la Colombe, si vous le cherchez, c'est dans la dernière partie de la Bible. Je profite pour faire une parenthèse. N'hésitez pas à vous équiper, à acheter une Bible. Il y a un magasin boulevard Thiers, nous en avons ici, que nous pouvons vous donner. Et n'hésitez pas à marquer des choses dans votre Bible. Je sais que pour certains, c'est un peu un sacrilège, mais ça vous aide après à retrouver des choses, et quand votre Bible est remplie, vous en prenez une nouvelle. Parce que sinon, vos yeux ne s'arrêteront que sur ce que vous avez déjà souligné. Et Dieu veut continuellement vous parler. Il a tout un message. Tout son dessein est dans sa parole. Verset 16, je lis dans la version à la Colombe. Donc c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté. C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen. Résumé des chapitres précédents, vous vous souvenez que Paul annonce la mauvaise nouvelle que nous sommes tous des pécheurs. Que nous soyons religieux, que nous soyons païens, que nous soyons des gens qui essayent de vivre de façon honnête, tous autant que nous sommes, nous ne cherchons pas Dieu et nous ne faisons pas sa volonté de nous-mêmes. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et puis, à partir du chapitre 3, au verset 21, Paul annonce la bonne nouvelle de ce que nous appelons la justification par la foi. Être justifié, c'est être déclaré acceptable par Dieu. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Dieu m'accepte, me prend dans sa famille pour vivre avec lui éternellement. Et cette justification, cette acceptation, elle n'est pas basée sur nos bonnes œuvres. Trop souvent, nous pensons que pour être accepté par Dieu, il faut le mériter. Il faut vivre parfaitement, respecter les 10 commandements à la lettre, faire des plein de bonnes choses. Et à ce moment-là, peut-être que la balance entre ce que j'ai fait de mal et ce que j'ai fait de bien oscillera assez loin pour que Dieu dise, bon, ben, ça va. C'est juste la moyenne, mais tu peux rentrer. Ça, c'est complètement faux. Dieu procède par la grâce, c'est-à-dire une faveur que nous ne pouvons pas mériter. Et il nous dit que une fois que nous venons à lui par Jésus-Christ, que nous reconnaissons qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, à ce moment-là, il nous accepte. Parce que la loi, la perfection de vie que nous n'avons pas atteint, Jésus-Christ l'a atteint. Et Jésus nous dit que si nous croyons en lui, il prend nos péchés, il les a pris déjà sur la croix, et en échange, il nous donne sa parfaite justice, sa parfaite vertu, son acceptation, l'amour qu'il reçoit du Père, et nous rentrons dans la famille. Ça paraît tellement simple que beaucoup de gens refusent d'y croire. Ils pensent qu'il doit y avoir un truc là-dessous. En fait, non, c'est tellement simple que beaucoup de gens refusent d'y croire. Dès l'enfance, nous sommes habitués à mériter les choses. La seule chose qui se rapproche un peu de cet amour que nous ne méritons pas, bien souvent, c'est l'amour que nous portent nos mères. L'amour maternel, quel que soit ce que fait l'enfant, bien souvent, la mère continue d'aimer l'enfant. Et c'est la seule chose. Mais sinon, on nous dit, si tu te tiens bien à table, tu auras du dessert. Si tu as des bonnes notes en classe, tu auras ce cadeau. Et ainsi de suite. Et on continue avec ce schéma dans notre relation avec Dieu et on pense qu'il faut l'impressionner, qu'il faut mériter son amour. En fait, il nous dit, mon amour, il est là gratuitement. Je vous aime, venez à moi. Et après, une fois que nous sommes sûrs d'être aimés, alors là, nous pouvons le servir. C'est tellement agréable de servir sans essayer de mériter des bons points. Parce qu'on a de la joie, parce qu'on sait que ça lui fait plaisir, mais pas pour dire, ah, si je viens tous les dimanches, il va être obligé de répondre à mes prières, parce que j'aurai gagné des bons points. Et donc, Paul, c'est ce message qu'il veut faire passer avec tant de passion, et nous avons tellement besoin de ce message aujourd'hui, de tous qui sommes réunis et ceux qui sont en dehors. Dieu nous aime, il veut que nous recevions cet amour. Sans rien faire d'autre. Il a déjà tout fait pour nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'accepter ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Paul parlait au milieu d'une société religieuse, la société la plus religieuse qui ait jamais existé, à tel point qu'il n'y a pas d'artistes dans d'autres domaines comme la sculpture ou la peinture, il y a très peu d'artistes. Les gens s'instruisaient et vivaient pour connaître Dieu, pour participer à la vie du temple. Et bien sûr, ils avaient le sentiment que les 10 commandements, ils arrivaient à les maîtriser. Alors qu'en fait, les 10 commandements, Dieu ne nous les donne pas pour qu'on mérite son amour, si on réussit à obéir. Il nous les donne pour nous montrer, si besoin était, que nous sommes totalement incapables de les respecter. Vous dites, mais moi, je n'ai jamais tué personne. Et Jésus vous dit, oui, mais attention, est-ce qu'il y a des fois où tu as dit, quel imbécile ? C'est la même chose. Il y a le même désir dans votre cœur de réduire l'autre à néant, de l'amoindrir, de vouloir le supprimer. Les 10 commandements disent, tu ne commettras point l'adultère. Et les rabbins disaient, mais je n'ai jamais commis l'adultère. Et Jésus leur disait, est-ce que tu as déjà regardé une jeune femme en te disant, j'aimerais bien avoir une relation avec elle ? Si c'est dans ton cœur, c'est comme si c'était dans les actes pour Dieu. Jésus a monté la barre. Ils arrivaient à sauter à 1,20 m. Il a monté la barre à 5 m, 50 m, 6 m, 7 m, en leur disant que le péché, c'est pas seulement les actes commis, c'est pas seulement les actes de bienfaisance que nous ne faisons pas, c'est aussi dans le domaine des pensées, dans le domaine de notre tête. Et là, lorsqu'il proclame ce message de Romains, il sait que les Juifs, parce qu'il a eu l'expérience, il a déjà partagé ce message pendant... C'est ce que nous raconte le livre des Actes. Paul, partout où il allait, soit il y avait la révolte contre lui, soit il y avait le réveil. Parce qu'il ne pouvait pas se tenir tranquille. Il a entendu toutes les oppositions de ces Juifs religieux qui se croyaient parfaits, qui croyaient avoir mérité l'amour de Dieu. Il leur dit, je sais que ça va vous choquer, mais vous ne pouvez rien faire pour mériter l'amour de Dieu, c'est seulement par la foi. Et sans la colère de ces personnes qui sont prêtes à le lyncher de dire de telles choses, parce que eux, toute leur vie, c'est de respecter la loi. Ils avaient multiplié les lois et les sous-lois au point que la Bible disait simplement « Tu respecteras le sabbat, le jour du Seigneur ». Et eux, ils avaient dit « Il ne faut pas travailler. Est-ce que travailler, c'est porter tel poids ? Est-ce que si je mets du sel sur mon repas, le jour du sabbat, est-ce que d'avoir porté du poids, est-ce que... » Ils avaient tout codifié, c'était les rois des pinailleurs, on dirait. Ça pinaillait sec, mais il n'y avait pas d'amour, c'était sec. Il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas d'amour. Et Paul sait qu'ils ne comprennent pas. Et il leur dit, mais attendez, vous ne me croyez pas, je vais vous montrer que vos héros favoris, eux-mêmes, ont été aussi justifiés par la foi. Et il prend l'exemple d'Abraham et de David. Abraham, c'était le père de la nation juive. C'était lui que Dieu avait appelé en lui promettant une nombreuse postérité qui allait bénir toute la terre. Et puis David, le grand roi David, l'auteur des psaumes, lui était tombé dans le péché avec Bathsheba. Mais il avait aussi, après s'être repenti, ressenti la libération, la joie d'être pardonné. Il avait écrit le psaume 32, le psaume 51, où il disait « Quelle chose merveilleuse lorsque l'on ne tient plus compte de nos péchés. » Et lui aussi, il avait fait confiance à Dieu pour le pardonner par la foi. Et donc, il prend l'exemple d'Abraham. Et il est dit que Paul, on l'a vu la dernière fois, que Paul explique bien que ce n'est pas par les œuvres. Parce que la seule chose qui a été comptée comme justice à Abraham, le fait qu'il était accepté par Dieu, c'est lorsque Dieu lui a promis une grande descendance, qu'il lui a montré les étoiles du ciel, en disant « ta postérité sera aussi nombreuse que toutes ces étoiles ». Et Abraham, il est dit, crut à Dieu. Il a cru à ce que Dieu lui disait, et c'est cela qui lui a été compté comme justice. Ce n'est pas le fait qu'il ait fait des bonnes œuvres, qu'il ait donné à manger aux pauvres, qu'il ait béni d'autres personnes. Non, simplement cet acte de foi, une promesse de Dieu reçue par la foi, et Dieu a porté à son compte bancaire spirituel, justifié, sauvé, aimé par moi. Les Juifs, vous le savez, donnaient une grande importance à la circoncision, qui était un rituel symbolique de renoncement à la chair, cette partie de notre nature qui est pleine de péchés. Et Paul leur dit, c'est pas la circoncision qui a sauvé Abraham, qui l'a fait accepter par Dieu. Et je suis sûr que dans l'esprit de ces gens, il fallait être circoncis parce que Abraham avait été circoncis. Mais Paul, par une chronologie rigoureuse, leur montre qu'en fait Abraham a été accepté, justifié par Dieu 13 ans avant que la circoncision ne soit instituée comme un signe d'une réalité intérieure. Encore une fois, nous avons dit, nous le répétons, pour Dieu ce qui compte, c'est la réalité dans le cœur. C'est pas les signes extérieurs. Nous donnons de l'importance aux signes extérieurs parce que nous ne pouvons pas voir au cœur. Nous voyons l'extérieur. L'homme donne beaucoup d'importance aux choses extérieures, c'est pourquoi la religion, ça attire du monde. S'il y a des robes, des belles églises, c'est vrai que c'est merveilleux de pouvoir se réunir dans un local. Mais des gens se croient spirituels parce qu'ils entrent dans Notre-Dame. Et pourtant leur cœur est toujours aussi loin de Dieu. Donc c'est pas par les œuvres, par les bonnes œuvres, c'est pas par les rituels. Pour nous, c'est pas parce qu'on est baptisé. C'est pas parce qu'on prend la Sainte Cène qu'on a une relation avec Dieu. Ces choses-là doivent être une évidence, une preuve extérieure, une manifestation extérieure de quelque chose intérieur. Et puis, il leur dit, et c'est, ça doit être tellement difficile pour ces gens qui réalisent qu'ils ont essayé de monter à l'échelle pendant des années, mais que l'échelle était appuyée contre le mauvais mur. Il leur dit que Abraham n'a pas été justifié par l'observation des 10 commandements.
Waouh !
C'est pas parce que Abraham a respecté parfaitement les 10 commandements que Dieu l'a appelé son ami. Vous savez que Abraham est appelé 3 fois l'ami de Dieu dans la Bible ? Et Jésus nous dit, nous invite à être ses amis aussi. Et pourquoi est-ce que c'est pas par la loi que Abraham a été justifié ? Là encore, simple mathématique, dans, Paul le rappelle dans Galates 3:17, simplement parce que la loi, elle a été donnée 430 ans après qu'Abraham ait été déclaré juste, ait été accepté par le Seigneur. Et donc, verset 16, il dit, Abraham a été justifié par la foi. Il faut qu'il s'agisse d'une grâce. Encore une fois, si c'était par les œuvres, à ce moment-là, Paul nous dit aussi, nous pourrions nous vanter de nos bonnes œuvres. Et ce ne serait plus Dieu qui recevrait la gloire. Ce serait Pierre, ce serait Nancy, ce serait Evelyne, ce serait etc. Mais nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas nous glorifier de notre relation avec Dieu. Alors, j'ai dit que Abraham, c'était un exemple parfait parce qu'il était comme nous. Mais sa foi, elle, n'était pas parfaite. Et ça, c'est quelque chose qui va vous encourager, qui m'encourage, parce que je sais que ma foi n'est pas parfaite. Il y a des fois où je suis assailli par le doute, il y a des fois où je me demande, mais après tout, est-ce que je peux faire confiance à cette parole ? Est-ce que ça s'applique vraiment à moi ? Je me souviens lorsque j'avais décidé de, ou plutôt que j'essayais de me décider pour savoir si le Seigneur voulait que je quitte ma vie aux États-Unis, un bon boulot dans l'informatique, une maison, le bonheur à l'américaine, entre guillemets, que les Français recherchent désespérément. C'est pour ça qu'ils font grève, pour avoir plus d'argent, pour avoir moins de travail. Et ce bonheur, en fait, je me disais, est-ce que Dieu veut vraiment... J'avais cette idée bizarre, que Dieu voulait peut-être m'appeler à rentrer en France et à partager l'évangile. J'avais jamais fait ça professionnellement. Je me disais, ma foi n'était pas parfaite, elle ne l'est toujours pas, et je me faisais beaucoup de soucis pour ma famille, pour mes enfants. J'ai dit, c'est bien beau, là j'ai un chèque qui arrive tous les mois. En fait, ça arrivait même 2 fois par mois, parce que là-bas on paye tout par 15 jours. Sébastien connaît ça. Aussi, Laurent peut-être aussi. Et je me disais, et ma famille me disait, mais ça va pas la tête, tu as 2 enfants, tu as ta femme, et de quoi vous allez vivre, d'amour et d'eau fraîche ? Et je savais qu'on pouvait prier, que le Seigneur pouvait réunir des églises qui nous supporteraient, des amis qui allaient nous supporter financièrement. Et puis un jour, je suis tombé sur ce verset dans les psaumes qui dit que je n'ai jamais vu les fils du juste mendier du pain. Je dis, mais ah, ce serait bien ça. C'est vrai que ça serait bien si mes gosses n'avaient pas à aller mendier pour avoir à manger. Surtout qu'ils devaient grandir et il en a fallu du pain. Et quelque part, je me disais, oui, mais là, il est dit, c'est le juste. Peut-être que c'est pas moi ça. Et le Seigneur m'a dit, non, si tu crois en moi, tu es justifié. Tu es juste. Le juste ne manquera de rien. Elle n'était pas parfaite, la foi d'Abraham, parce que Dieu lui avait... Il y a plusieurs exemples. Vous vous souvenez qu'il était d'abord... Il y avait la famine dans le pays, donc il avait décidé d'aller en Égypte. Puis là, en Égypte, il avait montré que Dieu l'avait suivi pour partir de la région où il était né, d'Ur des Chaldéens. Mais il avait peur. Il avait... une femme, Sarah, qui apparemment devait être une très très belle femme. Et il avait peur que les rois chez qui il était reçu veuillent la prendre pour eux. Et dans ces cas-là, le mari est en situation très délicate. On le supprime pour avoir son épouse. Et donc, Abraham avait demandé à sa femme de lui dire, de dire à ses rois, tu leur diras que tu es ma sœur, tu leur diras pas que tu es ma femme. Bel exemple de confiance en Dieu, n'est-ce pas? Et ça a conduit à des problèmes. Ça s'est arrivé deux fois. Et à chaque fois, ce sont les païens qui nous ont dit, mais pourquoi tu nous as menti? Et même avec une foi imparfaite, Dieu l'a béni. Il l'a protégé, il lui a donné la faveur de ses rois qui lui ont donné des biens, des richesses. C'est pendant ce séjour qu'il a ramené, qu'il a trouvé. Abraham avait 75 ans lorsqu'il avait reçu cette promesse dans Genèse 12. Il avait un nom, Abraham, qui voulait dire père exalté. Tiens, voilà super papa. Il a même pas assez facile d'être super papa. Il n'a pas d'enfant. Abraham, voilà. D'accord. À 75 ans, et un peu plus tard, Dieu lui dit, non seulement je vais changer ton nom, comme nous l'avons dit. Tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Avec le H, symbole de Dieu dans l'hébreu, dans la langue hébraïque. Et Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Alors maintenant, le pauvre Abraham, il voit ses copains. Bonjour Abraham. C'est plus Abraham. Ah bon? Non, Dieu a changé mon nom. Je m'appelle maintenant papa d'une multitude. Ah! Eh bien, on va prier pour toi, Abraham. Hein? Ouais. C'est formidable. On est content pour toi. Abraham. Et comme nous, Abraham, il avait la foi, mais il commençait à se poser des questions. Parce que le temps passait, et il n'y avait toujours rien. Ils n'avaient jamais eu d'enfant, Sarah était stérile, lui prenait de l'âge, le Viagra n'existait pas à l'époque. Finalement, il se dit, sous l'influence de Sarah, vous vous souvenez Sarah, lorsque Dieu lui avait fait savoir qu'elle aurait un enfant, elle avait éclaté de rire. C'était un des messagers, on pense que c'était Jésus-Christ lui-même, une préincarnation de Jésus qui lui avait dit, c'était l'ange de l'Éternel qui lui avait dit, tu vas avoir un enfant. Et elle avait trouvé tellement drôle qu'elle avait dit, elle avait éclaté de rire, et que finalement lorsque l'enfant est né, ils l'ont appelé éclat de rire, Isaac. Éclat de rire, c'était tellement drôle. C'était le meilleur gag qu'elle avait entendu dans l'année. La meilleure plaisanterie de toute l'année. Abraham, avoir un papa, je le connais. Il est plus en mesure, et moi j'ai passé l'âge de la ménopause. Mais j'ai une idée. Peut-être que à l'époque, vous vous souvenez, dans les lois de l'Ancien Testament, si un frère mourait sans avoir eu d'enfant, sa femme pouvait avoir des enfants, lui donner une postérité avec le frère, avec la personne dont le frère était mort. Il se dit peut-être que cet enfant, tu peux l'avoir avec ma servante, Agar. Il lui avait trouvé que c'était une bonne idée. Il n'avait pas trop résisté, parce que vous vous souvenez déjà, lorsque Dieu lui avait promis une descendance, il l'avait dit. Tu veux dire sans doute la descendance qui va venir à mon serviteur, Eliezer, parce que tu sais, moi j'ai pas d'enfant. Et Dieu lui avait dit, non, c'est pas par toi, un enfant de ta chair qui va être. Puis il voyait qu'il n'y avait rien qui se passait, alors il avait suivi cette idée de Sarah, d'avoir un enfant avec Agar. Cet enfant, c'était Ishmaël, le père de la nation arabe. Et on sait que jusqu'à ce jour, tous les problèmes que cette naissance a suscité, l'inimitié, les conflits entre les Arabes et Israël, qui va peut-être conduire à l'embrasement du monde, ça vient de la bonne idée de Sarah. Et ça, c'est le danger lorsque nous essayons d'aider Dieu à réaliser ses promesses. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui sont en train de faire ça. Dieu vous a promis quelque chose, et ça prend du temps, et vous vous dites, il va falloir que je donne un coup de main à Dieu. Je vais prendre les choses en main. Et c'est toujours, ça se termine toujours en catastrophe, ou en grand problème. Abraham, sa foi n'était pas parfaite parce qu'il avait peur. Il avait peur pour lui lorsque sa femme allait être peut-être remarquée par les chefs, les rois d'Égypte. Il avait peur que cette promesse n'ait jamais lieu, ne se réalise pas. Il faut réaliser que la peur, c'est le grand ennemi de la foi. Et ça fait du bien de temps en temps de s'arrêter et de penser à toutes les peurs qui vous assaillent en ce moment dans votre vie. De quoi avez-vous peur aujourd'hui? Déjà de savoir quelles sont ces peurs, de mettre un nom dessus, ça peut les limiter. Trop souvent, nous courons, nous agissons avec des peurs mal définies, des choses qui font qu'on continue d'avancer, mais en fait, si on s'arrête bien, on n'est pas motivé positivement, on est motivé négativement par la peur. La peur de ne jamais se marier. La peur de ne pas trouver du travail. La peur de tomber malade. Et on pourrait multiplier les peurs à l'infini. C'est ce que fait le diable. Le diable, il veut que nous vivions dans la maison de la peur, alors que Dieu veut que nous vivions dans la maison de l'amour. Et rien que de pouvoir contrôler un peu et se dire de quoi est-ce que j'ai vraiment peur, et de donner ces peurs à Dieu, ça vous fait du bien. Tout à l'heure, Rémi a lu le psaume 34, et là c'est justement un exemple de ce que je vous dis. J'ai cherché l'Éternel, verset 5, et il m'a répondu, il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. J'aime bien le mot « il m'arrache à toutes mes frayeurs », le mot « frayeur ». Parce qu'une frayeur, c'est quelque chose d'inconsidéré, c'est quelque chose d'augmenté, d'exagéré, c'est une peur exagérée, une frayeur. Et dans notre vie, nous sommes trop souvent, même nous les chrétiens, motivés par des frayeurs. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à louer ce local ? Est-ce que le propriétaire va pas décider de le reprendre maintenant que nous avons fait des travaux? Vous riez, mais c'est des choses qui m'assaillent. Qui assaillent, tirent et l'assaillent. Non. Ça fait du bien de faire le point dans votre cœur, même avec un bout de papier, et de remettre ça au Seigneur, d'appeler l'Éternel. Il vous arrache à toutes ces frayeurs. Et vous pouvez fonctionner comme il veut que vous fonctionniez. Quelqu'un a dit, le courage et la bravoure ne sont que la peur qui en appelle à Dieu. Les hommes courageux, ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas le danger, mais ça veut dire qu'ils font appel à quelque chose de supérieur au danger. Et nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être courageux, nous pouvons avancer, nous pouvons faire des pas dans la foi parce que nous pouvons en appeler à Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que la foi d'Abraham, elle n'était pas parfaite. La mienne ne l'est pas, la vôtre, j'en suis sûr, ne l'est pas non plus. pouvez me voir si c'est pas vrai après le culte, on peut en discuter. Mais c'est que même si nous ne sommes pas fidèles, Dieu lui est fidèle. Et toutes les bonnes relations dans la vie, nous parlons de cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu basée sur la foi, les bonnes relations dans notre vie, elles sont basées sur quoi ? Elles sont basées sur la confiance. Plus la confiance est profonde et plus la relation est forte et intime. Mais la confiance, elle prend du temps, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de connaître l'autre. Vous vous souvenez de l'exemple, si un inconnu vous demande d'emprunter les clés de votre voiture, normalement, si vous ne le connaissez pas du tout, s'il n'est pas recommandé, vous n'allez pas lui confier les clés de votre véhicule. Par contre, si je vais demander à Evelyne de me passer son espace, je ne sais pas, mais peut-être qu'elle me passera les clés, on verra. C'est pas la tienne. Elle démarre pas. Ah. Et il faut être à l'écoute de Dieu. La première fois qu'Abraham a entendu Dieu lui parler, il aurait peut-être pu dire « Ah non, c'est pas Dieu, ça, c'est, je me fais des idées. » Quand j'ai entendu Dieu me dire « Je veux que tu ailles en France », j'aurais pu dire, et je l'ai dit longtemps, j'ai dit « Non, si c'était vraiment toi, tu me l'aurais dit il y a longtemps. Tu m'aurais convaincu, tu m'aurais appelé plus tôt. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'ai pas d'expérience. » Et peut-être que parmi nous aujourd'hui, il y en a qui sont dans la vie et complètement retournés. Dieu veut avoir votre attention. Dieu veut vous parler. Mais vous vous dites, non, ce ne sont que des voix, et vous continuez votre chemin. La bonne chose, c'est que chaque fois que nous répondons à Dieu, il se révèle davantage. Et Dieu veut être notre ami. Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. La foi d'Abraham, première chose à noter, c'est, enfin, une chose importante à noter, c'est que c'était son objet. L'objet de sa foi, c'était le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a mis les galaxies en orbite d'un coup d'une chiquenaud de ses doigts, nous dit la parole. Dieu, on ne peut pas lui plaire sans la foi. La lettre aux Hébreux nous l'indique dans Hébreux 11, 16. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il vaut mieux une toute petite foi dans quelque chose de très grand, de très réel, qu'une grande foi dans quelque chose qui n'est pas digne de confiance. Lorsque nous prenons l'avion, Nancy est toujours nerveuse. Elle a une petite foi dans les Airbus ou dans les Boeing, bien qu'elle vienne de Seattle. Généralement, si je suis à côté d'elle, elle m'agrippe la main. Je ne veux pas l'embarrasser, mais je sais qu'il y a pour personne, pour mon pasteur de Seattle aussi, chaque fois le voyager, c'est, il suffit qu'il y ait un petit problème technique et la gravité va s'occuper de nous. Elle a une petite foi dans un avion qui est fiable. Il vaut mieux qu'elle ait une petite foi dans quelque chose de solide qu'une grande foi dans des ailes qu'elle mettrait sur ses bras en essayant d'aller voler jusqu'aux États-Unis. C'est ridicule, mais c'est tellement vrai. Jésus disait à ses disciples, si vous aviez une foi grande comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle le ferait, parce que rien ne vous serait impossible. Ses disciples, ceux qui le connaissaient, leur foi n'était même pas de la taille d'un grain de moutarde. Notre foi n'est même pas de la taille d'un grain de moutarde pour la plupart d'entre nous, pour moi. Mais si j'ai un tout petit peu de foi dans quelque chose de très grand, dans un Dieu tout-puissant, alors des choses vont se passer. Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Certaines versions disent « vous croyez plutôt disent « croyez en Dieu, croyez aussi en moi » parce que l'impératif et l'infinitif, c'est le même mot en grec. Mais je crois qu'il s'adressait aux Juifs qui croyaient en Dieu, il leur disait « vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Est-ce que vous savez que 60% des Français disent « croire en Dieu » Mais ils croient en Dieu qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont mélangé, ils ont mélangé des croyances, des superstitions. Il y a bien quelqu'un là-haut, on ira tous au paradis. Mais oui. Jésus leur dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ça, c'est le message que nous voulons apporter au monde autour de nous. Il ne peut pas y avoir de relation personnelle avec Dieu s'il n'y a pas de relation personnelle avec Jésus. Et dans aucune autre religion, vous trouvez une relation personnelle, une relation intime, une relation d'amour avec Dieu. Vous trouvez des fois des religions où Dieu est puissant, Dieu est inquiétant, Dieu est sévère, on ne sait jamais si on va lui plaire ou pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La clé d'une foi forte, c'est de connaître Jésus. Et c'est un cercle vertueux. Plus on le connaît, plus il se révèle, plus on a confiance en lui et plus notre foi grandit. C'est pour ça que Paul priait sans cesse pour les églises, pour que les chrétiens voient leur foi grandir, qu'ils connaissent, qu'ils croissent dans la connaissance de Dieu. Parce que plus on connaît Dieu, plus on lui fait confiance, plus on va le connaître. Et Dieu est digne de toute votre foi. Celui qui croit en lui ne rougira jamais, nous dit la Bible. Peut-être que vous êtes intimidé de dire à votre entourage, parce que vous êtes seul à le faire, dire que vous croyez en Dieu, mais vous n'aurez jamais à rougir de Dieu. Jamais il vous laissera tomber, jamais il ne tiendra pas sa parole. Sa foi, justement, la foi d'Abraham, elle était basée sur la parole de Dieu. Verset 18 de ce chapitre 4. Espérant contre tous, il crut et devint ainsi le père d'une nation, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. C'était la promesse que Dieu lui avait donnée. Il avait confiance que Dieu pouvait créer à partir de rien. Et Abraham croyait à la parole de Dieu, la parole que Dieu lui avait donnée, la parole que Dieu nous a donnée, nous pouvons y croire. Dieu a des milliers de promesses pour chacun de nous. Et il veut que vous les connaissiez. Il se peut même que des difficultés que vous avez aujourd'hui, c'est Dieu qui les a mises en place, ou les a permises plus exactement, de façon à ce que vous le connaissiez mieux. Que ces difficultés vous poussent à aller vers lui et à lui dire « Dieu, j'ai besoin de ton aide. Dieu, je veux te connaître. Dieu, explique-moi pourquoi ça se passe comme ça. Dieu, je veux te faire confiance. Est-ce que je peux te faire confiance ?» Dieu se plaît à répondre à ses prières. Encore une fois, les promesses de Dieu, il y a des petits livres qui en font la liste, il y en a des centaines, des milliers, et elles sont pour vous. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. La joie de l'Éternel est votre force. Toutes ces promesses, vous pouvez bâtir votre vie dessus. Et nous voyons que la foi d'Abraham, elle était forte, elle résistait en dépit des circonstances. Encore une fois, verset 19, « Sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah était déjà atteint par la mort. Physiquement, à vue d'homme, médicalement, il n'y avait plus aucune possibilité physique. » Et sa foi ignorait justement ses possibilités physiques. Ce qui est caractéristique bien souvent de nous, c'est que nous ne pouvons croire aux promesses seulement quand nous voyons comment elles peuvent être accomplies. Souvent, on a du mal à demander la guérison pour un cancer. On se dit que c'est quand même une maladie très grave. C'est difficile. On a moins de mal à prier pour une migraine. Peut-être on se dit si le Seigneur ne répond pas, on prendra deux comprimés d'aspirine. Mais nous, trop souvent, nous disons oui, si je vois comment Dieu peut faire, alors là je vais avoir confiance. Mais là, Dieu a attendu jusqu'à ce que les possibilités soient nulles à vue d'homme. Et souvent, trop souvent, dans nos prières, pour les choses que nous souhaitons, que Dieu a promis, nous essayons de dire à Dieu comment faire les choses. Oui, Dieu, ce serait bien si tu vois ce local que nous sommes donné, si on pouvait avoir quelqu'un que le propriétaire accepte de nous vendre à tempérament. Et donc le loyer, au lieu d'être à fond perdu, ce serait pour en vue de l'achat de ce local. Ça, je peux prier pour ça parce que j'ai déjà figuré une façon. Ou peut-être, je connais quelques chrétiens qui ont été généreux dans le passé, je sais qu'ils ont un patrimoine, peut-être que si je leur fais part du besoin, peut-être qu'ils seront prêts à nous faire un prêt, peut-être un cadeau même, mais au moins un prêt. Peut-être une banque. Mais si je vois pas, et là je vois vraiment pas comment on pourrait devenir propriétaire de ce local, et c'est là que Dieu peut se manifester, c'est là que Dieu peut être glorifié. Parce que lui peut avoir sa solution, et ça sera sa solution, ça va pas être la mienne. Et dans vos prières, dans votre situation, peut-être que vous priez pour quelque chose, en vous disant, oui Dieu, il faudrait que tu fasses comme ça, ça serait formidable, et puis toi, telle personne, là, si on pouvait, voilà, ça va. Et on essaye de manigancer et de manipuler Dieu. Et Dieu, ça, je vous garantis, ça ne marche pas. Mais si vous venez à lui en disant, Seigneur, agis, montre-toi, sois glorifié, alors, il peut répondre. Sa foi d'Abraham, c'était une foi qui grandissait, qui croissait. D'abord en écoutant la parole de Dieu, nous l'avons vu. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous dit Paul. Et si notre foi est faible, c'est parce que nous ne sommes pas dans la parole. Nous ne la connaissons pas assez. Je vous garantis que j'ai beaucoup de chance d'être pasteur. Parce que professionnellement, je dois passer du temps dans la parole. Le Seigneur veut que je passe du temps non professionnellement, que je lise des passages qui n'ont aucun rapport avec mes études. Mais quel privilège que d'être obligé, entre guillemets, chaque semaine d'avoir à passer du temps. Je peux être déprimé, fatigué, je me replonge dans la Bible et je suis régénéré. Je suis fortifié, je suis encouragé. J'essaye de vous faire part de cet encouragement. Mais vous-même, vous pouvez être dans la parole et être fortifié. Les ordonnances de Dieu, de l'Éternel, sont plus précieuses que l'or, nous dit David. On a une mine d'or. Pas au sens de la prospérité matérielle, mais une prospérité spirituelle, de se sentir bien. Si je vous disais qu'il y a des billets de 20 euros dans la rue, là, qui sont tombés par terre, là, est-ce que vous iriez les ramasser? Moi, j'irais même ramasser des billets de 5 euros. La parole de Dieu pour bâtir, pour fortifier votre foi. Cette foi, elle a pu grandir aussi parce qu'elle a été testée. Elle a été mise à l'épreuve dans la durée. Il est dit qu'Abraham a patiemment attendu. Il a attendu 25 ans avant de voir la réalisation de sa promesse. Et il a obtenu ce qui lui avait été promis. Peut-être que vous êtes impatient parce que ça fait 6 mois que vous priez et rien ne s'est passé. Dieu peut vous donner la patience. Et pourquoi est-ce qu'il y a toujours un temps d'attente entre la promesse et la réalisation ? Quelqu'un disait, c'est parce qu'il y a besoin de préparation pour vous. Vous aimeriez bien être marié, peut-être, mais le Seigneur veut vous préparer. Vous aimeriez avoir des enfants, mais vous n'êtes pas encore prêt. Dieu vous prépare, Dieu teste votre foi, tenez bon. Abraham a fait grandir sa foi en obéissant à Dieu. Vous savez que plus tard, il a même été obéissant au point d'offrir en sacrifice son fils Isaac. Parce qu'il se disait, Dieu me le demande, je vais le faire, je sais pas, il a promis une postérité une multitude. Je ne sais pas comment il va faire, mais il doit être capable de redonner la vie à ce qui est mort. Et nous, pour nous, chaque fois que le Seigneur nous demande de faire quelque chose, nous devons être fidèles et le faire. Si le Seigneur vous dit, tiens, je vais appeler tel frère, telle sœur, je vais faire un cadeau, je vais faire une lettre, je vais aider avec les enfants, je vais venir, je vais demander comment je peux aider dans l'église, est-ce que je suis bon pour peindre, est-ce que je peux aider. Si c'est, vous sentez que c'est le Seigneur, ne dites pas, oh, j'ai pas le temps. Obéissez et votre foi grandira. Quelqu'un dit, l'obéissance et la foi, ce sont deux frères ou deux sœurs siamoises. Si vous ne croyez pas, commencez par obéir. Si vous n'obéissez pas, commencez par croire. Et les deux vont se fortifier. Et puis, finalement, il est verset 20, il a donné gloire à Dieu en avance. Il a loué le Seigneur. Ça fait du bien de louer le Seigneur, même si on n'a pas vu encore la réponse à nos prières, de lui témoigner votre confiance, parce que vous vous retrouvez en sa présence, il vient vous faire du bien, il met sa main sur vous, vous vous sentez aimé. Et le résultat, c'est que sa foi lui a été comptée comme justice. Verset 22, cela lui fut compté comme justice. Toute cette foi qui était loin d'être parfaite, mais qui était prête à grandir, qui était prête à se baser sur la parole, qui était prête à obéir, cette foi, Dieu lui a dit, puisque tu as cette foi, alors je t'aime, je t'accepte, tu seras avec moi pour toujours. Et puis il y a cette fin de chapitre qui est un peu bizarre, parce que il est dit, ce n'est pas à cause de lui seul que ça est écrit, cela lui fut compté, c'est aussi à cause de nous. Paul parle à l'époque, il nous inclut, tous ceux qui allons lire sa lettre. Nous aussi, nous pouvons dire, cela nous est compté. Et ce qu'il nous dit, en fait, c'est que nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification, c'est qu'en fait, nous l'avons belle, nous qui vivons maintenant, parce que Abraham n'avait pas la connaissance précise de la croix. Il avait la promesse qu'il allait avoir un descendant qui allait bénir la planète entière. Mais nous avons la Bible qui nous explique. C'est un moins grand pas de foi que nous avons à faire. Dieu a déjà montré tout ce qu'il faisait par Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Le fait qu'il soit ressuscité, c'est la preuve que le sacrifice a été accepté, que la foi suffit. Et puis j'aime bien aussi l'idée qu'un pasteur que j'aime bien citer, John Corson, qui parle de l'histoire de Jumbo. Jumbo, c'était pas un Boeing 707, c'était un éléphant. C'était le plus gros éléphant qui ait jamais vécu en captivité. Il était dans le cirque Barnum. C'était un éléphant monstrueux. Il pouvait d'un coup de trompe enrouler un arbre et le déraciner. Mais ce qui était remarquable, c'est qu'en fait, lui, quand il était au repos, quand il était dans sa cage ou sous la tente, il était attaché par terre, il y avait une chaîne, et un petit piquet qui devait faire 50 cm. Et Jumbo, jamais il ne serait venu à l'idée de pouvoir arracher ce piquet et partir se promener. Pourquoi ? Parce que dès l'enfance, dès la plus tendre enfance, dès qu'il était un bébé, il avait essayé de tirer ce piquet, il avait vu que le piquet était plus fort. Et depuis, il ne comprenait pas, il croyait toujours que ce piquet était plus fort que lui. Et ce pasteur nous dit, en fait, nous, chrétiens, si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il est vivant, qu'il est auprès du Père, qu'il va revenir, nous avons déjà fait le plus difficile. Nous avons déjà arraché l'arbre énorme. Et la plupart des chrétiens n'ont aucun problème à croire que Jésus est vraiment ressuscité. Les non-croyants ont des problèmes, on peut leur parler, il y a des preuves, c'est pas des preuves mathématiques, mais qui montrent qu'en fait la résurrection c'est la seule solution aux événements historiques qui se sont passés. Et ce pasteur dit, vous avez fait le plus difficile dans la foi, vous êtes comme des jumbos, et vous croyez que Jésus est ressuscité des morts, mais vous vous demandez comment va arriver votre prochain chèque. Est-ce que vous allez perdre votre emploi? Est-ce que vous allez pouvoir trouver un époux, une épouse? Est-ce que, il nous dit, c'est ridicule, si vous avez la foi pour croire que Jésus est ressuscité, alors votre vie devrait être remplie de foi pour toutes les autres choses qui vous concernent. Parce que il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Rien qui soit impossible à Dieu. Dieu donne la vie à ce qui est mort. Que ce soit le corps d'Abraham et de Sarah à 99 et 89 ans. Il peut donner la vie à notre esprit qui était mort dans les ténèbres. Il peut redonner la vie à notre mariage. Il peut redonner la vie à notre vie de prière. Il peut redonner la vie à une église. Dieu est celui qui donne la vie. Il est tout puissant. Aux hommes, cela est impossible. Jésus disait dans Matthieu 19, mais à Dieu, tout est possible. Luc, rien n'est impossible à Dieu. Luc 18, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen.